autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour réécouter en ce mois de rediffusion estivale une émission OVNI, aussi sidérale que sidérante, diffusée une première fois le 17 février dernier, consacrée à l'astronomie de l'étrange. Des objets célestes les plus bizarres, aux idées astronomiques les plus folles, quand la réalité cosmique et parfois comique dépasse tout ce que l'on peut imaginer même dans nos plus folles hallucinations ou scénarios de science-fiction. Le cosmos n'a pas fini de nous étonner, c'est ce que nous avions constaté. La tête dans les étoiles, au cœur de notre univers en pétard ou chiffonné, c'est selon, grâce à une astronome singulière elle aussi, Yael Nazé, qui mène de front ses recherches à l'Institut d'astrophysique et de géophysique de l'Université de Liège en Belgique, et la transmission de son savoir astronomique et éclectique. Autrice de nombreux ouvrages à succès, Yael Nazé venait de publier aux éditions Belin « L'astronomie de l'étrange », un régal pour les yeux et les oreilles des amoureux du ciel que nous sommes. Chers amis auditeurs à l'esprit libre et curieux, autour de la question « Pourquoi faire l'astronomie de l'étrange ?», embarquement immédiat sur les traces de tous les objets volants non identifiés.
Les ovnis, les extraterrestres, tout ça, c'est du flan, c'est pour nous dindonner. On parle d'hallucination, de désorientation et d'amnésie. Le complexe militaro-industriel.
Comme les Américains avec la zone 51.
Comme le pastis. Bizarre.
Ah, c'est la tarte à la crème des canulars ovnis.
Pourquoi tu veux pas qu'on regarde dans ton satellite, sac à merde ?
Laissez. Je m'en occupe. On va la résoudre, cette enquête. On va la résoudre maintenant.
Enquête ouverte dans cet extrait de la série OVNI sur Canal+, de circonstances pour plonger dans l'étrange cosmique avec vous, Yael Nazé. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct, en duplex avec nous, depuis les studios de la RTBF à Liège, en Belgique, pour partager donc cette astronomie de l'étrange. C'est le titre de votre dernier ouvrage, paru aux éditions Belin. Un ouvrage fantastique, c'est le mot, réjouissant autant que perturbant, ou le plus étrange, d'ailleurs le plus bizarre n'est pas toujours ce que l'on croit. Les ovnis ou objets volants non identifiés ne sont qu'une partie, émergée de l'iceberg cosmique, où au fond, chaque objet céleste, chaque concept astronomique et presque chaque destin d'astronome ou d'astronaute a son volet étrange et bizarre. Au fond, Yael Nazé, l'astronome que vous êtes vous-même, un maître de recherche FNRS à l'Institut d'astrophysique et de géophysique de Liège, qui n'aimait rien tant que partager votre science astronomique, au fond, vous n'avez eu que l'embarras du choix, finalement, pour faire cette astronomie de l'étrange.
Bah oui, parce que franchement, il y a quand même pas mal de trucs bizarres dans le ciel, beaucoup de choses qu'on comprend pas, beaucoup de choses qu'on a mal compris. Et puis, bon, il faut bien avouer aussi que les astronomes, on le sait bien, ont parfois la tête dans les étoiles, hein, dans tous les sens du terme. Donc voilà, il y avait beaucoup d'exemples, beaucoup d'anecdotes, mais finalement assez peu connues, parce que souvent, on a tendance à lisser tout ça et à présenter les destins d'astronomes comme, la grande aventure d'un héros, et puis les découvertes où on évite tous les problèmes et on raconte un peu l'histoire de la victoire finalement, et on oublie toutes nos défaites et tous les à côté.
C'est ça, tous les à côté. Alors, il va y avoir du suspense, hein, de la côté, du décalé, de l'effroi, de l'hallucinant parfois et même du suspense. Autour de la question pourquoi et comment faire l'astronomie de l'étrange, on va peut-être commencer, comme vous le faites d'ailleurs dans cet ouvrage magnifiquement illustré en plus, l'astronomie de l'étrange, par ces destins justement d'astronomes. Alors, destins souvent contrariés, ils sont souvent, hein, vous êtes vous-même astronome, hein, Yael Nazé, mais ils sont souvent un peu fêlés, c'est des drôles de personnalités, hein, tout de même.
Bah oui, peut-être que pour se tourner vers le ciel, il faut être un petit peu bizarre aussi, hein. Je le reconnais, je fais partie du lot certainement. Mais il y a des destins quand même qui sont très beaux, quoi, hein, aussi.
Vous citez notamment ce muletier devenu astronome.
Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est un gars qui est issu de classe moyenne américaine, hein, et qui disons que sa famille lui prévoyait un bel avenir de banquier, et lui il tombe amoureux d'une montagne, le mont Wilson, Et du coup, au grand dam de sa famille, eh bien, il décide de devenir muletier. Et en faisant ça, en fait, il finit par rencontrer toute une troupe d'énergumènes qui ont décidé de construire justement un observatoire sur le mont Wilson. Et petit à petit, en fait, il va transporter le matériel avec ses mules, mais après, il va commencer à installer les télescopes pour finalement les utiliser et pour finalement, bah, quelque part, révolutionner l'univers, puisqu'il est un de ceux avec Hubble, hein, qui a fait énormément de mesures pour montrer l'expansion de l'univers.
Oui, donc c'est vraiment, il a attrapé le virus de l'astronomie comme d'autres qui étaient carrément un peu fous. C'est pas un Belge, c'est un Suisse, hein, qui est quand même
c'est
assez...
C'est un Suisse, Fritz Zwicky est assez particulier.
Oui, oui.
Mais Fritz Zwicky, il est génial et il est complètement dingue, quoi. En fait, il a 10 idées à la minute et puis dans les 10, il y en a 5 qui sont géniales et 5 qui sont... qui sont achetés, quoi. Mais et bon, c'est quelqu'un qui va avoir des avancées absolument, absolument extraordinaires. Hein. Il est le premier à imaginer cette idée de matière sombre dans les amas de galaxies. Mmh. Il va imaginer aussi ces étoiles à neutrons, des phénomènes de l'antigravitationnel. Il va travailler sur énormément de choses. Et puis à côté de ça, c'est le gars qui va vous dire, oh ben finalement, pour aller voir une autre étoile, on va pas construire un vaisseau spatial, il faut juste déplacer le système solaire, quoi, pour aller
voilà.
Voir.
Voilà, pourquoi okay, pas. Hein.
Et puis c'était un Suisse qui adorait ces montagnes, qui a été très déçu d'ailleurs quand il est arrivé en Californie parce que on lui avait promis des montagnes et puis pour lui c'était juste des collines, quoi. Et alors bon, quand même, quand il y avait de la neige, il en profitait, hein, au Mont Wilson, au Palomar, pour aller skier, voire même installer un tremplin de ski, hein, parce que bon voilà.
On ne se refuse rien, il faut profiter de tout. Alors a priori, être astronome, c'est pas un métier dangereux. Quoique, vous avez un petit chapitre, comment meurt un astronome, assez étonnant.
Oui, en fait, il y a plusieurs endroits où j'évoque ça. En fait, c'est vrai que, bon, quand on compare, je sais pas, aux pompiers, par exemple, on se dit, bon, astronome, c'est tranquille. Mais finalement, pas tant que ça. Alors, avant qu'il y ait de belles salles climatisées, déjà, vous étiez dehors. Alors, parfois, il fait froid, hein. Donc,
Et la nuit, en plus.
Certains qui ont eu des problèmes. Voilà. Donc, la nuit. Donc, c'est clair que c'était froid. On en a un qui a attrapé une pneumonie et qui est mort à cause de ses observations. Mais même encore aujourd'hui, hein, je veux dire, il faut bien se rendre compte que les télescopes sont des instruments avec... c'est des tonnes, la coupole, le télescope lui-même. Bon, il y en a un, par exemple, qui, à cause d'une bêtise, c'est pas de sa faute, quoi. Mais bon, en gros, il a pris le dôme dans la figure, hein, et bon, voilà, il en est mort aussi. Par contre, il y en a un autre qui, lui, a échappé à la mort. Il était en Australie, au Mont Stromlo, en train d'observer. Et vous savez, en Australie, il y a des feux, hein, et donc il y avait justement un feu. On a évacué l'observatoire et on l'a oublié. Il s'est retrouvé tout seul sur l'observatoire avec le feu partout. Alors il se fait que justement quand il était arrivé, il avait avec un copain rigolé parce qu'il avait vu un petit dépliant sur les dangers du feu en Australie. Mais il s'en était souvenu de ces informations-là et ça lui a sauvé la vie.
Comme quoi, on le disait bien, il faut faire de feu de tout bois et comme quoi voilà. Il y a quand même pas mal de choses étranges, bizarres. Vous avez dit bizarre autour de la question de cette astronomie de l'étrange. On en est qu'au début, chers amis auditeurs. Alors on va un peu reprendre notre souffle avant d'être aspiré peut-être par un trou noir. On s'arrête en orbite sur un objet céleste très étrange et récemment identifié, les pulsars mis en musique par Vangelis sur RFI. We'll be right back. comme ça que ça sonne, un pulsar, la société des pulsars de Vangelis, hein, Yael Nazé.
Ça sonne mieux, évidemment, quand c'est Vangelis qui s'en occupe, hein, ça c'est sûr.
Mais autour de la question pourquoi faire l'astronomie de l'étrange, qu'est-ce que c'est qu'un pulsar dans la série Objet Céleste, désormais identifié, hein, tout de même?
Alors oui, désormais identifié. En fait, il s'agit d'un cadavre d'étoiles massives. Donc, quand à la fin de leur vie, hein, les étoiles massives explosent en supernova et puis bah, leur cœur va s'effondrer sur lui-même et ça peut donner pour les extrêmement massives un trou noir. Mais quand elles sont pas extrêmement massive, mais quand même pas mal massive, ça donne cette étoile à neutrons. Donc c'est un objet qui est extraordinairement dense, extraordinairement lourd, et qui donc on est dans des objets, vous voyez, une dizaine de kilomètres de rayon, et puis quelquefois la masse du Soleil, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Ce sont des objets qui sont extrêmement importants. On peut étudier énormément de choses avec, et qui ont la particularité en fait de pulser. C'est comme ça qu'on les a découverts. Hein. Ça émet un signal en fait, un peu comme un phare. Et donc on reçoit une bouffée radio très régulièrement, tellement régulièrement qu'en fait le patron de celle qui les a découvert, cru qu'il s'agissait d'extraterrestres, en fait.
C'est ça, hein, c'est Jocelyne Bell, hein, qui les a découverts dans les années 60, qui les a identifiés. Mm-hmm. Mais justement, en forme de boutade, son patron les avait appelés quoi, Little Green Man, c'est ça, un petit homme vert.
Oui, et c'était pas une boutade. Lui, il était persuadé. Lui, il croyait. C'est-à-dire que pour lui, on avait évacué toutes les autres explications, l'interférence humaine. Il était persuadé que ça ne pouvait être que quelque chose d'artificiel parce que c'était trop régulier. Et donc, comme on avait éliminé toutes les interférences locales, bah, il ne restait que la possibilité d'une civilisation extérieure, quoi. Elle, non, hein. Elle était persuadée, dès le départ, c'était un objet naturel. Elle avait pensé justement à cette idée de phare. Et bon, tant qu'elle en avait qu'un, vous pouvez vous dire, bon, une civilisation extraterrestre qui vous contacte, tout va bien, quoi. Mais trois ou quatre qui font la même chose en même temps, ça peu bizarre, quoi. Et donc elle a dû changer de sujet, parce que c'était pas son sujet de thèse, elle travaillait sur tout à fait autre chose, mais elle a dû changer de sujet après cette découverte là et d'autres se sont rendus compte en fait dans les années qui ont suivi qu'il s'agissait bien de cadavres d'étoiles massives, ces fameuses étoiles de neutrons que Zwicky avait imaginées.
C'est ça, Zwicky les avait imaginées. Jocelyne Bell, donc signalons-le, hein, c'est une femme qui les a découvertes, qui les a déterminées, qui a compris ce que c'était que ces pulsars, alors que son patron, comme d'autres aujourd'hui, on va y revenir, vont un peu vite à dire qu'il s'agit peut-être de signal extraterrestre. On va y venir justement parce que parmi les ovnis qui ont traversé notre ciel récemment, il y en a un qui a fait couler beaucoup d'encre et qui reste toujours un mystère, hein, une énigme qui permet justement les hypothèses les plus extravagantes. J'ai dit qu'on allait revenir. Ce bolide, c'est un étrange objet céleste en forme de cigare qui a traversé notre système solaire à toute vitesse. C'était en 2017, détecté par les astronomes de l'observatoire de Hawaï. Il est surnommé maintenant Oumuamua. Il ne dégageait aucune traînée de poussière et il a traversé le système solaire à toute vitesse. Je propose d'écouter l'histoire de la découverte de cet objet venu d'un autre système que le nôtre par l'astronome Karen Mesh de l'université de Hawaï. C'était dans sa conférence TED.
So what would you like to know about Oumuamua, the very first visitor from another star system?
Que voudriez-vous savoir sur Oumuamua, le tout premier visiteur venu d'un autre système stellaire? Je pourrais penser à un million de choses, mais entre ce que l'on veut et ce que l'on peut avoir, et Oumuamua se déplaçait et disparaissait si rapidement. En l'espace d'une semaine, sa luminosité avait diminué par un facteur de 100. C'était tout le temps dont nous disposions pour l'étudier facilement. Quoi qu'il puisse être, nous pensons que c'est un objet naturel, mais nous ne pouvons pas prouver que ce n'est pas un objet artificiel. La couleur, la forme étrange, le mouvement de culbutage pourraient tous avoir d'autres explications. Même si nous ne croyons pas que c'est une technologie extraterrestre, pourquoi ne pas faire l'expérience logique et rechercher un signal radio? C'est exactement ce que le projet Breakthrough Listen a fait. Mais jusqu'ici, Oumuamua reste absolument silencieux. Pourrait-on envoyer un engin spatial vers Oumuamua et répondre à cette question une fois pour toutes? Oui, nous avons la technologie nécessaire, mais ce serait un voyage long et coûteux, et nous nous éloignerions tellement du Soleil que la trajectoire d'approche finale serait très compliquée. Je pense qu'Oumuamua a beaucoup d'autres choses à nous apprendre, et on pourrait avoir de nouvelles surprises pendant que des scientifiques comme moi continuent à étudier ces données. Plus important encore, je pense que ce lointain visiteur a vraiment confirmé le fait que notre système solaire n'est pas isolé. Nous faisons partie d'un environnement bien plus vaste et en fait, nous pourrions bien être entourés de visiteurs interstellaires sans même le savoir. Ce cadeau inattendu a peut-être soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponses, mais nous avons tous été les premiers à saluer un visiteur d'un autre système solaire.
Oumuamua, l'histoire de cette découverte partagée par l'astronome Karen Mesh de l'observatoire de Hawaï. C'est toujours une vraie énigme, Yael Nazé, cette Oumuamua, ce cigare qui a traversé notre système solaire.
Tout à fait. En fait, elle l'expliquait bien. Hein. Le problème, c'est que l'objet est passé très vite. Et donc, on a eu vraiment extrêmement peu de temps pour récolter des données. Et puis, une fois qu'il est passé, c'est fini. Donc, voilà. Alors, évidemment, on travaille sur des données encore aujourd'hui. Mais je veux dire, globalement, si dans les données, on se dit, ah ben tiens, ça serait bien de faire tel truc parce que, voilà, ça va me donner un test pour essayer de trouver ce que c'est. Ben, le problème, c'est qu'on sait pas le faire. D'habitude, on a quand même au moins un peu le temps. Bon, je veux dire, on peut se dire, ok, voilà, ici on voit ça, d'accord, je vais tenter ça, bon, ok, j'analyse, ça me donne ça, ok, 2 mois après, 1 an après, on revient. Là, c'est pas possible, le truc, il est passé tellement vite que on a très peu d'informations finalement.
C'est ça, et du coup, ça permet toutes les spéculations, toutes les hypothèses. L'un de ceux qu'il a étudié, qui est très sérieux normalement, le professeur d'astrophysique de Harvard, Avi Loeb, vient même d'écrire un livre dans lequel il n'hésite pas à parler du premier signe d'une vie extraterrestre. Ben, parfois, les astrophysiciens, même les plus sérieux, ils vont un peu fort tout de même. On a même dit que lui avait peut-être des intérêts économiques, il cherche à fabriquer des voiles solaires comme pourrait être cet Oumuamua, ou peut-être qu'il est un peu devenu mégalo. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous, Yael Nazé, parce que il va vite, hein, quand un astrophysicien de Harvard nous dit ça y est, c'est peut-être le premier signe d'une vie extraterrestre, on se dit oula.
Oui, maintenant, ce qu'il y a, c'est que bon, il faut bien comprendre que tout le monde dans la communauté était absolument excité par cet objet, hein. C'est clair que on était tous, ouais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, et ce genre de choses. Et bon, quand on a eu l'information sur sa forme, qui a une dimension plus grande que les autres, alors ça peut être cigare ou pancake, bon, je veux dire, il y a quand même
plus d'un astronome. Un cigare ou pancake, on ne sait même pas si c'est un cigare ou un pancake, un très grand.
Hein. C'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est l'un ou l'autre. Il y a une dimension plus grande que les autres. Mais ce qui est amusant, finalement, c'est que, je veux dire, beaucoup d'astronomes ont lu de la science-fiction, et la première chose qui est venue à l'esprit, c'est Rama, quoi, d'Arthur C. Clarke, quoi. Tout le monde se dit, ah ouais, ben voilà, c'est comme dans le bouquin, quoi. Bon, maintenant, évidemment, à ce moment-là, on était au tout début, donc on a eu plus d'informations après, on a avancé, on n'a pas eu de signaux radio, etc. Bon, alors.
Oui, on n'a rien détecté, il n'y a pas eu de signaux détectés, mais il y a des bizarreries.
Il n'y a aucun signe. Il y a des bizarreries. Le truc a accéléré, et il faut bien une raison pour accélérer. Alors, bon, soit vous accélérez ici, enfin, dans les hypothèses qui restent, je vais dire, c'est soit vous accélérez un peu à la manière d'une comète, donc vous dégazez, hein, c'est comme une fusée, hein, vous envoyez du gaz derrière. Soit c'est la lumière qui vous pousse, parce que la lumière exerce une très légère pression, hein, très faible, vous vous en rendez pas compte quand vous êtes sous une lampe ou sous le soleil, mais il y a une toute légère pression, et donc ça peut effectivement, comme ça, faire avancer. Alors, Avi Loeb est arrivé avec cette idée de pression de radiation sur, on va dire, l'équivalent d'une voile solaire, hein, mais évidemment, il met sa voile solaire non pas comme un objet naturel, mais plutôt comme un débris qui serait par hasard tombé dans notre système solaire en provenance d'une autre civilisation. Alors là, évidemment, le problème, c'est que, comme elle le disait, hein, dans l'extrait qu'on a entendu, on ne peut pas dire qu'il a tort. Maintenant, c'est pas l'hypothèse la plus probable.
C'est voilà, ça. C'est bon. Ça. Et c'est pas très scientifique de dire ça tout de suite. Et on a l'impression qu'il faudrait que, parce que nous, simples mortels, j'ai envie de dire, on n'arrive pas à garder la tête froide si on voit un objet étrange au-dessus de nos têtes. Mais normalement, c'est vrai qu'on dit que les scientifiques, Vous non plus, hein. Vous gardez pas la tête froide, en fait. Ben non, c'est trop excitant.
Non, c'est clair.
Mais oui.
Mais ce sont quand même des hypothèses tout à fait, l'hypothèse de la vie ailleurs, c'est quelque chose, c'est une hypothèse
Absolument.
Tout à fait scientifique et qui Absolument. Peut être étudiée de manière totalement scientifique. Donc, il faut pas non plus se dire, ah non, si on parle d'extraterrestres, c'est tout de suite n'importe quoi. Il faut bien se rendre compte qu'on a des sondes qui vont aller, étudier, on a justement Persévérance, hein, ce fameux robot américain.
Qui va peut-être se poser demain sur Mars.
Voilà. Et qui, normalement, va aller étudier justement des l'habitabilité et potentiellement des traces de vie. On a aussi un rover européen qui va faire pareil. Mmh. On étudie les atmosphères d'exoplanètes pour essayer de voir s'il n'y a pas des biosignatures. Donc, c'est un sujet qui est véritablement scientifique. Simplement, bon, voilà, ici, je veux dire, le gars, il tient à son hypothèse, mais pourquoi pas. Mais de là à la pousser à ce point-là, voilà, c'est peut-être pas le truc le plus évident.
C'est ça. Et aujourd'hui, finalement, on est en quête, hein, de formes de vie extraterrestres, quelles qu'elles soient. Mais ça n'est, pour le moment, en tout cas, qu'une quête, hein. Il y a déjà assez de mystères, finalement, et d'énigmes comme ça dans le cosmos autour de la question pourquoi faire l'astronomie de l'étrange. Allez, on continue de nous interroger ensemble, Yael Nazé, sur les mystères du cosmos avec Björk sur RFI, un morceau que vous nous avez aussi soufflé dans les oreilles et qui est magnifique. Cosmogonie.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Étrange et magnifique de Björk sur RFI. En votre compagnie, Yael Nazé, vous êtes astronome à l'Institut d'astrophysique et de géophysique de l'Université de Liège en Belgique. Autour de la question « Pourquoi et comment faire l'astronomie de l'étrange ?» titre de votre dernier ouvrage aux éditions Belin, j'ai demandé, Yael Nazé, à des astronomes, à des astrophysiciens et astrophysiciennes, ni fous ni bizarres, ou pas plus que chacun d'entre nous, l'objet cosmique le plus étrange qu'ils avaient étudié, celui qui leur semblait justement le plus bizarre. Écoutez voir la surprenante réponse de l'astrophysicienne et cosmologiste Nabila Aghanim, membre de la mission Planck et de la mission Euclide, qui vient de mettre en évidence la matière ordinaire cachée de l'univers dans son laboratoire à Saclay.
Eh bien, en fait, je pense que je ne vais pas faire dans la dentelle. Pour moi, le plus étrange objet astronomique, c'est la Terre.
Ah, d'accord.
Oui. En fait, c'est un objet qui est unique. Et effectivement, toute l'étude du vivant autour de la Terre, l'émergence du vivant, ce sont des études qui ont pour objectif de répondre à cette question pourquoi la Terre est, enfin, aujourd'hui unique. En tout cas, on n'en a pas observé d'équivalent.
Géniale réponse de Nabila Aghanim. Pour elle, l'objet le plus étrange du cosmos, ben, c'est la Terre, Yael Nazé.
Bah oui, c'est vrai qu'on a longtemps cru que c'était un peu la norme planétaire. Mmh. Hein, quand on s'est rendu compte que finalement on n'était qu'une planète parmi d'autres, bah on s'est dit bah finalement toutes les planètes, hein, Mars, Vénus, Jupiter, tout ça finalement ressemble un peu à la Terre. Pour finalement se rendre compte que bah en fait non. Et plus on découvre d'exoplanètes, plus on se rend compte qu'effectivement c'est pas si évident que ça. Donc la Terre a quelque chose effectivement qui est particulier, et bon, voilà, alors, est-ce que c'est la seule occupée, ça, évidemment, c'est une autre histoire, mais disons qu'elle a certainement un caractère très étrange.
Très étrange, alors, et c'est d'ailleurs souvent, c'est ça qui est aussi étonnant dans cet ouvrage, hein, l'astronomie de l'étrange, c'est pas toujours les objets les plus étonnants pour nous, ou apparemment étonnants qui le sont. Mm-hmm. Vous travaillez d'ailleurs, les étoiles par exemple sont déjà sont toujours très mystérieuses. Vous travaillez vous-même, je crois, sur une étoile connue depuis la préhistoire, mais qui pourtant est toujours mystérieuse, c'est ça?
Oui, exactement. Donc en fait, si vous avez la chance que le ciel est bien dégagé ce soir et que vous vous trouvez, je vais dire, dans l'hémisphère nord ou en tout cas pas trop dans le sud, vous aurez la possibilité de voir Cassiopée. Cassiopée, donc c'est une constellation en forme de W. Mm-hmm. Et l'étoile qui est au milieu du W. C'est une étoile, donc bon, je veux dire, on la voit à l'œil nu, nos ancêtres de la préhistoire la connaissaient. On s'est rendu compte au 18e que elle était quand même un petit peu bizarre. On en a trouvé quand même des centaines qui étaient comme elle, c'est-à-dire que en fait c'est une étoile qui tourne très très vite et elle a une espèce de disque de matière autour d'elle. Elle perd de la matière sur un disque. Bon, jusque là tout va bien, mm-hmm. Sauf que il y a quelques années, on s'est rendu compte d'un problème. Ce machin là qu'on croyait bien connaître, on se dit ouais, voilà, c'était une classe à part, on appelle ça les étoiles BE. Eh ben en fait elle était différente des autres étoiles BE parce que elle émet des rayons X, c'est-à-dire que dans cet objet il y a une source qui se trouve à plusieurs millions de degrés. Et quand je dis plusieurs millions, ça se calcule en dizaines de millions, hein. Wow. Voilà, et on ne sait pas pourquoi. Donc, jusqu'à il y a peu, on n'en avait qu'une, on avait que celle-là. Maintenant, on a un petit peu chipoté, on a un petit peu trituré nos données, on a un petit peu étendu les choses et on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même pour le moment, on en a 25 qui sont comme ça et on n'a absolument aucune idée de pourquoi. Et c'est une étoile que vous pouvez voir tous les jours. Enfin, je veux dire, voilà, ouais. C'est, vous sortez, c'est comme la grande ours, quoi. Elle est inratable. C'est le W de Cassiopée. Enfin, voilà. Et puis vous regardez, et puis vous dites, ouais, mais tu vois, c'est là, on sait pas. Elle est pas loin, elle est pas, on la voit bien, mais on sait toujours pas. Et donc, voilà, ça serait super si on avait un petit Faucon Millennium, un USS Enterprise pour aller voir sur place. Mais là, on fait ce qu'on peut, donc on braque nos télescopes, on essaie de comprendre. On espère bien, finir par trouver la solution. Mais en tout cas, là, voilà, on a un mystère, sur une étoile finalement. Simple, entre guillemets.
C'est ça. On n'imagine pas que des mystères et des énigmes se cachent derrière. Allez, une étoile qui, pour vous, astronome, est simple, et qu'en tout cas, nous tous, vous l'avez dit, on peut observer dans l'hémisphère nord, l'étoile en W de Cassiopée, objet étrange, autour de la question des plus étranges objets astronomiques. On continue de s'interroger et d'interroger, les planétologues. J'ai demandé justement à l'un de ces explorateurs du système solaire, le planétologue François Forget, qui nous avait récemment, entraîné à la découverte des paysages de Pluton et des cratères de Mars, grand arpenteur virtuel des sols de Mars et de Pluton, quelle était pour lui la planète ou le paysage le plus étrange qu'il ait virtuellement bien sûr arpenté.
Bonjour Yann Nazé, ici François Forget. Alors moi je me considère comme un simple planétologue, c'est-à-dire que je m'intéresse vraiment aux atmosphères, aux cailloux, et j'aime à m'imaginer me promenant dans les paysages sur Mars, sur Pluton. Et sur Mars, en fait, on le fait, on envoie des robots et on voit vraiment des paysages. Et puis sur Pluton, on a des sondes qui ont pris des belles photos. Donc ça paraît étrange et exotique, mais finalement, ça n'est pas tant comme ça. On peut se promener. Par contre, moi, je suis pas un vrai astrophysicien parce que quand je pense à un trou noir, quand je pense à la matière noire, au Big Bang, je suis complètement perdu et là, je sais plus quoi penser. Alors je voudrais savoir, poser la question à Yael, qui a donc passé du temps à réfléchir à ces endroits étranges et exotiques. Quel est l'endroit le plus étrange qu'on peut imaginer? On est là avec un vaisseau spatial Et qu'est-ce qui pourrait être le plus bizarre? Être près d'un trou noir, être entre deux galaxies, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui pourrait être le plus bizarre qu'on puisse imaginer?
Votre réponse, Yaël Nazer, François Forget.
Il y a plein d'endroits bizarres.
C'est ça le problème. Ça,
on pourrait dire, voilà, être justement là à s'occuper de radio, à écouter pour ceux qui sont en train de nous écouter.
Ouais.
Voilà, déjà ça, rien que ça, hein, c'est quand même particulier. Hein.
C'est ça, par des ondes radio, notre voix leur arrive et on peut penser voilà. Et réfléchir ensemble. Ouais.
Et puis on peut se dire, bon voilà, il y a mes petites étoiles qui sont aussi très particulières. Donc, je veux dire, je crois qu'il faut se rendre compte que chaque petit morceau d'univers est une merveille à explorer et qui tout est curieux. Moi, j'adorerais vraiment aller pouvoir voir les cailloux martiens parce que bon, lui, il a l'air de dire que c'est vrai, c'est tout à fait normal parce qu'il a l'habitude de les voir. Mais simplement, je suis sûre qu'il serait là-bas, il les prendrait sur main, il serait tout fou comme nous. Hein.
Mais bien sûr.
Voilà, donc chaque objet vraiment recèle toute une partie de découverte. Et je crois que c'est un peu ça, quand on regarde un peu notre univers, même si on ne peut pas le toucher, parce que c'est vrai que bon, voilà, le trou noir, vous n'avez pas intérêt à vous approcher trop, chaque petite parcelle eh bien, vous renvoie à tout ce qu'on ne connaît pas, à tout ce qui reste à faire, et puis ça vous titille votre curiosité, quoi.
Et c'est vrai que même François Forget, ici même, quand il nous avait partagé les paysages de Pluton, c'était magnifique à chaque fois. Il y a aussi une sorte de beauté qui nous frappe, qui nous touche, parce qu'il y a une beauté dans tous ces objets, quels qu'ils soient.
Bien
même
sûr.
Les trous noirs qui nous font si peur, il y a une espèce d'effroi et de beauté à chaque fois.
Non mais imaginez des systèmes avec beaucoup d'étoiles. Pensez, il y a un système où il y a 7 étoiles. Donc nous on a un soleil, d'accord? Mais imaginez un système, un ballet de 7 étoiles qui sont ensemble, qui se tournent autour de manière très particulière. Ce serait fabuleux dans le ciel d'avoir 7 étoiles.
Ah ouais, 7 soleils, on peut rêver. Et pour ceux qui peuvent y aller, pour les astronautes notamment, autour de la question de l'astronomie de l'étrange. Alors l'étrange, il se cache parfois, j'ai envie de dire, un peu comme le diable dans les détails. Et là, je m'arrête à la page 34 de votre ouvrage, l'astronomie de l'étrange, intitulé « Besoins féminins sur les raisons vraiment un peu gonflées, invoquées pour ne pas envoyer de femmes dans l'espace ». Racontez-nous ça, Yaël Nazer.
Bah, finalement, en gros, ça fait pas si longtemps que ça qu'on envoie des femmes dans l'espace, alors que dès les années 60, on sait qu'elles sont meilleures que les hommes à pas mal de... je veux dire, par mal d'aspects. Par exemple, elles sont plus résistantes à la douleur, à la chaleur, aussi à la solitude, parce que les premières missions étaient quand même des missions où on était seul. Quand ça a été à plusieurs, ben c'était aussi plus facile si vous aviez des femmes. Elles étaient aussi plus petites, consommaient moins d'oxygène. Donc ça, c'est aussi un avantage,
moins
de poids. Tout ça, c'est bien. Mais en gros, on s'est arrangé pour ne pas les avoir, en disant oui, mais elles ont des besoins particuliers. Alors les besoins particuliers, c'est quoi? Alors bah, déjà, c'est la toilette. Hein. C'est clair que bah, voilà, il y a une toilette sur la Station Spatiale Internationale. Et les toilettes, pendant très très longtemps, en dehors du moment où c'était des couches, bah, globalement, c'était un tuyau. Hein. Ce qui est prévu pour une certaine morphologie, mais qui ne convient pas à toutes
c'est
les morphologies.
C'est ça, aux morphologies féminines
voilà.
Notamment.
Par exemple. Alors, vous avez aussi, au niveau morphologique, bah, les fameuses combinaisons. Hein. Les combinaisons spatiales sont faites pour les hommes. Et bon, bah, les femmes n'ont pas les bouts qui dépassent au même endroit. Hein. Et donc, globalement, il faudrait bien avoir des combinaisons qui ne soient pas exactement pareilles. Alors, encore aujourd'hui, une combinaison pour une femme, c'est simplement une combinaison d'hommes en taille small ou medium, quoi. Ce qui fait que, par exemple, en mars 2019, la NASA avait fait une grande annonce en disant « Ouais, on va faire la première sortie spatiale totalement féminine ». Et puis deux semaines après, ils disent non, finalement, on va pas la faire parce que on n'a pas les combinaisons, les gars.
C'est ça, c'est juste pour ça, c'est quand même complètement
voilà,
fou.
Juste pour ça, quoi. Enfin, c'est assez dingue. Alors on a aussi évoqué, par exemple, hein, les règles, hein, en disant ah non, mais attendez, elles vont avoir une péritonite si on les lance dans l'espace pile au mauvais moment. Il y a des trucs dingues, quoi. Quand on a la première astronaute américaine, Sally Ride, qui va partir. Ben, elle raconte que les ingénieurs se sont vraiment très fort inquiétés et leur ont dit, mais est-ce que si on prépare une réserve de 100 tampons, est-ce que ça va suffire pour une semaine dans l'espace, quoi? Enfin bon, la fille les a regardés, mais c'est, enfin, allez, quoi. Et alors, évidemment, il fallait faire aussi un kit d'hygiène spécial pour les femmes. Alors, les ingénieurs, au lieu de demander bêtement aux filles astronautes de la sélection, qu'est-ce que vous voulez? Oui. Ils ont commencé à réfléchir. Et dans leur grande réflexion, ils sont arrivés à... Alors, il faut du rouge à lèvres.
Hein. Ah, bien sûr, c'est indispensable pour croiser les extraterrestres, notamment.
Exactement. Il faut quand même 4 trucs pour le maquillage des yeux. Hein, le mascara, tout ça, très important. Hein. Et puis le blush, enfin voilà, tout ça, il faut. Par contre, la lotion hydratante, qui en fait est quelque chose d'assez utile.
Hommes aussi, c'est ça. Voilà. Comme quoi, il y a quand même pas mal de comiques dans le cosmique, comme vous le dites vous-même. Enfin, oui. Du comique qui peut nous faire rire jaune un peu aussi. Puis il y a aussi d'étranges rumeurs sur le sexe dans l'espace, Yael Nazé.
Ah ben bah oui, bah forcément, parce que quand on envoie des femmes dans l'espace, voilà. Dès le début, hein, on s'est dit, oui, mais on peut envoyer les femmes sous forme d'équipement récréatif. Hein. C'était Wernher von Braun qui a raconté
formidable,
ça.
Formidable, oui.
Formidable. Mais bon, dès qu'il y a eu des équipages mixtes, ça a été la grande rumeur. Ah ouais, mais hein, il faut des expériences hein, dans l'espace. et ça revient régulièrement. Hein, ça revient. Bon, alors, on a eu un certain nombre d'animaux hein, qu'on a essayé effectivement d'accoupler, mais pas les humains encore. Donc, voilà.
Ça fera peut-être partie voilà, de votre prochaine astronomie de l'étrange. Autour de la question, comment faire l'astronomie de l'étrange dans votre compagnie à El Nazé, après avoir fait peut-être l'amour dans l'espace, on va essayer de ne pas y faire la guerre. Ni non plus la poubelle de la Terre, ça sera juste après avoir suivi le groupe Wang Chung dans l'espace Space Junk sur RFI. Drifting on the spaceway by the hotel, mapping out constellations of the place I know so well, sifting through the system for the piece that knows my name, endlessly I list them in the master game. Welcome to my world. Words are coming through. I'm riding on space junk, and it's bringing me to you. Bringing me to you. Through the 10th dimension to the certain beyond, pre-millennial tension and the subatomic bomb. Space Junk, signé du groupe britannique Wang Chung sur RFI. Autour de la question de l'astronomie de l'étrange, qui est le titre de votre ouvrage à nul autre pareil, à El Nazé, formidablement illustré, qui fourmille d'anecdotes plus étranges les unes que les autres. Allez, on peut par exemple parler de ces éruptions solaires qui font sauter des mines au Vietnam.
Oui, en fait, c'est une histoire assez folle. Hein. On avait imaginé de miner un port hein, lors de la guerre du Vietnam, donc c'est côté américain. Et évidemment, pour ce que vous vouliez, c'était que les mines sautent quand il y avait un bateau qui passe. Quoi. Alors la question, c'est comment vous détectez que le bateau passe. Il y a différents moyens, et notamment le fait que beaucoup de bateaux ont une coque métallique, évidemment, et donc l'idée, c'est que vous mettez des détecteurs magnétiques, hein, et, mm-hmm. et puis vous voyez s'il y a un morceau de fer qui passe à côté. Alors, donc les Américains se disent super, magnifique idée, ils vont mettre 11 000 mines. 11 000
Mon Dieu.
Devant les ports, dans les eaux côtières, quoi. Et puis, ce qui se passe, c'est que le 4 août, en 72, le soleil se fâche, il fait une très très grosse éruption, vraiment une énorme éruption, comme on en voit très très rarement, avec vraiment des conséquences sur la magnétosphère beaucoup plus fortes que d'habitude. Hein. On a une pression sur la magnétosphère qui est multipliée par 100 avec les interruptions des réseaux électriques côté canadien, etc. Donc vraiment énormément de problèmes. Et puis bien sûr, évidemment, des perturbations magnétiques. Et c'est là qu'il y a un avion qui passait justement au-dessus de ces eaux minées et qui a vu joyeusement les mines sauter parce qu'elles étaient prévues pour sauter si elles détectaient une petite variation magnétique. Et ben c'est voilà, j'en avais une grosse.
Voilà, due à cette éruption solaire, due au soleil. Hein.
Exactement, due au soleil. 4000 mines ont sauté en fait. Et donc après, celles qui restaient, les 7000 qui restaient, ils ont dû les enlever petit à petit à partir de janvier 73. Mais voilà, les belles mines qu'ils avaient mises, pas de bol, elles ont explosé à cause du soleil.
Et ça a permis aussi quand même de comprendre, enfin de se poser des questions sur le champ magnétique et sur les éruptions solaires.
Alors cette éruption-là a été importante parce que justement elle était plus forte que d'habitude. Hein, donc ça montre bien les conséquences que peuvent avoir
les phénomènes
les éruptions les plus fortes. Oui.
Et des conséquences qu'ils peuvent avoir donc sur Terre, évidemment, puisque nous sommes dans la banlieue hein, de ce cosmos, nous-mêmes. Et dans notre petite banlieue, on a aussi des micro-ondes. Il y a aussi des liens, un drôle d'histoire avec les micro-ondes, Yael Nazé.
Alors ça fait partie des petits bip-bip qu'on n'a pas très bien compris ce que c'était au départ. C'est que, on a reçu un moment sur un radiotélescope à Parkes, des bips radio, des bouffées d'ondes radio.
Qu'est-ce que c'est ?
Très courte. Et voilà, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que c'est ?
D'où ça vient ?
Voilà. D'où ça vient ? Bon, bizarre. Alors, évidemment, le truc, c'est qu'on avait déjà eu des bouffées de rayons gamma, par exemple, ce qu'on appelle les sursauts gamma. Et il faut un certain temps, évidemment, pour savoir ce que c'est, quoi. Avec un seul, vous savez rien faire, mais quand vous commencez à en avoir assez, vous pouvez voir quelle région du ciel ça vient. Et bon, ça vous aide, quoi. Donc là, vraiment, ça venait d'un peu partout dans le ciel. Il n'y avait pas d'indication, mais curieusement, ça venait uniquement à ce radiotélescope-là, en Australie, et pas ailleurs. Alors, ils ont fini par se poser des questions en se disant, c'est quand même pas normal qu'il y ait que nous qui détections ça, surtout qu'ils s'étaient associés à d'autres radiotélescopes pour essayer de faire des campagnes communes, hein, pour voir un petit peu. Voilà, et c'est pas des extraterrestres qui parlaient qu'aux Australiens, donc ils se disent, bon, ok, les gars, on va, au lieu de regarder la direction, je veux dire, sur le ciel, à quoi ça correspond, on va regarder la direction sur Terre. Et là, quand ils font ça, ils se rendent compte quand même qu'il y a un truc bizarre, c'est que, en gros, ces bouffées d'ondes radio, bah, elles proviennent typiquement, en semaine, c'est aux alentours des heures de midi et des
heures de repas.
Des heures du soir, quoi, hein, des heures de repas. Et puis, elles proviennent toutes de la direction de la cantine. C'est quand même bizarre. Et alors, ils ont commencé à faire des expériences et ils ont finalement conclu que c'était le four à micro-ondes qui posait problème.
Mais de alors, l'observatoire, oui. C'était pas des extraterrestres, c'était le four à micro-ondes de la cantine.
C'était le four à micro-ondes. Et alors, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des astronomes qui faisaient réchauffer leur truc, mais qui attendaient pas la fin du cycle et qui ouvraient la porte du four à micro-ondes. Et c'était ça, en fait. C'était quand ils ouvraient la porte du four à micro-ondes, ben ça s'arrête, mais ça s'arrête pas immédiatement. Donc, il y avait une petite émission micro-ondes qui partait par le grand
radiotélescope australien. L'étrange, c'est presque la loi sur Terre comme dans le cosmos. Mais justement, quelle loi, quel droit applicable dans l'espace? Nous étions récemment posé la question ici même dans ce studio avec Julien Mariez, le chef du service juridique du CNES. Écoutez ce qui, pour ce juriste de l'espace, Yael Nazé, serait le plus étrange et le plus cosmique des sujets et des questions.
Question juridique de l'étrange en droit de l'espace, en tout cas, qui me vient à l'esprit comme ça, c'est demain, si jamais effectivement on rentre en contact avancé avec une civilisation extraterrestre, dans quelle mesure on va formaliser les relations juridiques entre nous ? Est-ce que le concept même de juridique parlera à ces civilisations ? Je pense que oui. Est-ce qu'on fera des accords de coopération entre la Terre et d'autres civilisations? Bon, c'est une question effectivement qui m'interroge.
Vous avez les yeux qui brillent quand même, Julien Marais. Ça vous intéresserait de plancher là-dessus?
Je pense pas que de mon vivant, je serais amené à plancher sur un accord de coopération entre la Terre et une planète hors système solaire. Mais sait-on jamais? J'aimerais bien, en tout cas, effectivement. Ce serait, je pense, la mission ultime du juriste de l'espace.
Sait-on jamais, voilà de quoi qui nous bouleverserait tous, hein, j'imagine. Le plus étrange, alors à venir, hein, pour vous, Yael Nazé, en astronomie.
C'est compliqué à dire parce que dans les choses à venir, il y a énormément de choses.
Oui.
Mais je dirais que justement, si on part sur ce terrain-là, un peu juridique et spatial, ben on a le développement, bien sûr, de tout ce qui est spatial privé ce moment. Et c'est vrai que, bah voilà, peut-être que faire des accords avec les extraterrestres, ça sera pas simple, mais je peux vous assurer que faire des accords déjà sur Terre,
c'est pas
entre
simple.
Nous, c'est déjà très compliqué.
C'est ça, entre astronomes comme vous qui voulez observer et des Elon Musk, pour ne pas les citer, qui veulent partir dans l'espace et qui risquent de vous voler un peu votre ciel, c'est ça?
Tout à fait, mais on peut aller plus loin à partir du moment où vous avez des touristes vous amenez sur Mars ou sur la Lune. Voyez, il y a des zones qui sont quand même extrêmement intéressantes au niveau scientifique. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites des parcs naturels, mais qu'est-ce que vous protégez? Qu'est-ce que vous ne protégez pas? Je veux dire, c'est un peu tout le problème du tourisme de masse. Hein.
On peut
regarder sur Terre ce que ça donne. Ouais, vous imaginez lié aux autres planètes, c'est compliqué, hein. C'est pas simple du tout.
Autant faire attention, justement, et puis se poser les bonnes questions aujourd'hui. Alors, on peut s'en poser des plus étranges. Grâce à votre ouvrage, Yael Nazeh, que je vais citer, parce que vraiment, il est magnifique. Astronomie de l'étrange, donc, aux éditions Belin, sous-titré Individu singulier, objet bizarre, idée insolite. Et puis, on peut aussi signaler pour les plus curieux d'entre nous, d'entre vous, que l'ESA, l'Agence spatiale européenne, recrute des astronautes. Alors, on va vous mettre le lien sur notre page. Des jeunes hommes et des femmes aussi, hein, Yael Nazeh.
Bien sûr.
Un peu fou, hein, sûrement. Mais bon, prête à tout. Et prête à partir dans l'espace, il y en a. Il y a une nouveauté quand même dans ce recrutement un peu hors des sentiers battus, c'est que l'ESA ouvre le recrutement à une nouvelle catégorie de parastronautes, réservée donc aux futurs astronautes hommes et femmes souffrant de handicap pour justement les intégrer dans une navette spatiale. Alors là, vraiment, on n'arrête pas le progrès et c'est tant mieux. Merci infiniment, Yael Nazeh, d'avoir été en duplex avec nous depuis Liège. Merci à l'équipe technique aussi de la RTBF sur place. Et puis vous revenez quand vous voulez, Yael Nazeh, pour vous faire partager votre science astronomique et puis l'astronomie de l'étrange ou l'astronomie du passé, pour citer d'autres ouvrages. Merci à vous, Yael Nazeh.
Merci.
Autour de la question, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi, si vous le voulez bien, pour la suite de nos rediffusions estivales avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir et vous remercier de votre curiosité, chers amis auditeurs et internautes. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les infos.